Les cours du Collège de France, Hugues de T, chaire oncologie cellulaire et moléculaire.
Bonjour à tous, donc on va débuter ce troisième cours dans lequel on va commencer à aborder les interactions entre stress oxydant et chimiothérapie anticancéreuse. Un domaine que j'ai vraiment exploré dans ces trois dernières années et où j'ai appris beaucoup de choses parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé en fait dans ces trois dernières années. Et donc on est vraiment dans la tradition du Collège de France d'enseigner la recherche en train de se faire, la recherche en train de changer. Ce qui veut peut-être dire que ce que je vous dis aujourd'hui sera considéré comme très insuffisant dans trois ans. Peut-être qu'il y aura eu beaucoup de découvertes d'ici là. Mais on fera un autre cours à ce moment-là pour les mises à jour et les mises au point. Donc, quelques généralités sur la chimiothérapie anticancéreuse qui sont en fait sorties de deux revues écrites par les pionniers américains du domaine, hein, Bruce Schabner et Laurence DeVita. Et c'était une véritable révolution parce que pendant longtemps, l'approche du cancer, c'était une tumeur, donc la tumeur, on l'enlevait avec la chirurgie. Après, il y a eu Marie Curie et on a commencé à faire de la radiothérapie, même si au départ, on ne savait pas très bien faire. Et juste pour la petite histoire, Antoine Lacassagne, qui a eu la chaire de cancérologie à la fin des années 50, avait démissionné avec perte et fracas de l'Institut Curie, où il était responsable de la cellule qui avait mis au point les rayons, en disant que finalement, cette invention des rayons avait conduit les médecins à faire beaucoup plus de dégâts que de bien, et que finalement, les patients qui avant mouraient de cancer mouraient ensuite de brûlures et d'insuffisance médulaire à cause de la radiothérapie, et donc qu'il était temps de mettre un petit peu de science et un peu de méthode dans cette approche. Donc, des approches locales, des approches loco-régionales, et bien entendu, pour des maladies qui sont d'emblée diffuses, comme le sont par exemple les leucémies, puisque malheureusement, chez un patient atteint de leucémie, il y a autant de cellules leucémiques dans le crâne que dans les orteils. Donc pour ces maladies locales, enfin diffuses, il n'y avait aucune solution locale ou loco-régionale. Et donc, des approches chimiques générales étaient en fait les seules approches qu'on pouvait développer à l'époque. Et ce que rappelle, je crois, Bruce Schabner, c'est que les premiers départements de chimiothérapie dans les années 50 et 60, les collègues appelaient ça le butcher shops, l'atelier des bouchers, parce qu'ils considéraient que c'était une médecine complètement insensée. Et puis, d'un point de vue biologique, et c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment tranché, vous comprendrez au fur et à mesure que ce cours se déroule, ça voulait dire une approche générale, ça voulait dire qu'il existait des différences fondamentales entre les cellules normales et les cellules cancéreuses, et que ces différences fondamentales, on était capable d'agir sur elles. Et au fond, ces différences fondamentales, elles ne sont pas radicalement claires encore à l'heure actuelle. Il y a des tas d'indices, mais on ne le verra pas. On le verra dans ce cours. Et donc ça soulève une question qui est pour moi une question centrale dans mon activité de recherche depuis 35 ans. C'est de comprendre quelles sont les bases biologiques de l'index thérapeutique. Qu'est-ce qui va faire qu'un médicament, qu'une substance chimique va tuer beaucoup mieux des cellules cancéreuses qu'elle ne va tuer des cellules normales. Et ça, c'est une thématique qu'on a, avec Anthony Letaille de Harvard, développée dans un article un peu d'opinion qu'on a publié l'an dernier, en disant, voilà, la chimiothérapie finalement anticancéreuse, elle a guéri des dizaines de millions de patients, mais à la fin, on ne sait pas comment ça marche. Et on ne sait pas pourquoi est-ce que ces médicaments vont être beaucoup plus actifs sur les cellules cancéreuses qu'ils ne sont sur les cellules normales. Et donc, ce qu'on appelle l'index thérapeutique, et vous allez voir que ça va être un thème récurrent de ce cours, au fond, aujourd'hui, il n'est pas vraiment compris. Donc, au fil des ans, on a eu plusieurs types de produits qui sont apparus. D'abord, les alkylants, comme l'endoxan, la cyclophosphamide, le cisplatine, on va y revenir, des antimétabolites, comme le méthotrexate, la racitine, la mercaptopurine, des poisons du fuseau mitotique, comme la vincristine, des intercalants de l'ADN, des inhibiteurs de topoisomérase, et on en reparlera aussi à la fin du cours. Donc toute une classe de produits différents. Et la réalité, quand on se penche un petit peu sur les aspects historiques, c'est que la plupart de ces découvertes, elles sont empiriques. Elles sont empiriques avec des produits qui agissaient un petit peu sur des lignées cellulaires. Mais on sait aujourd'hui que les lignées cellulaires sont d'assez mauvais systèmes d'études des cancers humains. D'abord, elles poussent beaucoup plus vite, beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc, il y a des différences fondamentales qui font que cette biologie qu'on a pu extrapoler de l'étude de cellules cancéreuses, elle n'est pas forcément très représentative de ce qui se passe dans la vraie vie. Et puis ensuite, il y a eu effectivement des essais cliniques, et ces essais cliniques ont permis de mettre à la disposition des malades un certain nombre de produits. Alors, de manière intéressante aussi, c'est quelque chose que je crois que j'avais souligné dans mon cours l'an dernier, la chimiothérapie est en général utilisée en polychimiothérapie, en combinant différents types de molécules, et ces combinaisons, elles ont rarement été fondées sur des bases biologiques logiques. Et en fait, la plupart du temps, ces combinaisons, elles ont été déterminées par l'absence de toxicité additive. C'est-à-dire qu'on allait combiner un produit qui était toxique pour le cœur avec un produit qui était toxique pour le rein et un produit qui était toxique pour la moelle osseuse, en se disant que du coup, on pourrait mélanger les trois et qu'on n'allait pas avoir de toxicité additive sur un organe qui aurait évidemment permis d'empêcher une toxicité aiguë. Donc, vous voyez, des mécanismes extrêmement empiriques, mais ces mécanismes extrêmement empiriques ont réussi à guérir un nombre considérable de gens, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Et donc, c'est un thème que vous avez bien compris, il y a énormément d'incertitudes sur les modes d'action. Et au départ, on s'est dit, on va cibler l'ADN, on va bloquer la division. C'est le principe des poisons du fuseau. Les poisons du fuseau vont bloquer le fuseau mitotique et donc ça va bloquer la mitose. Sauf qu'on s'aperçoit aussi que des poisons du fuseau, ils ont des actions profondes, majeures, thérapeutiques. Ils sont efficaces sur des tumeurs qui se divisent extrêmement peu. Ce qui veut dire qu'il y a probablement d'autres choses derrière. Donc, ciblage de la réplication d'ADN au départ, et puis, depuis quelques années, beaucoup d'autres idées, par exemple la catastrophe mitotique, c'est-à-dire qu'au contraire, l'idée d'aller jusque dans la mitose, mais d'avoir une mitose anormale, dont la cellule va mourir, la sénescence, de stress oxydant, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, et puis la mort immunogénique, c'est-à-dire un type de mort qui va stimuler le système immunitaire et permettre d'induire une réponse immune. Alors, historiquement, ces polychimiothérapies, on l'a dit, sont très largement diffusées. En fait, il y a assez peu de recherches parce que ces recherches ne sont pas très simples au niveau clinique. Qu'au niveau clinique, ce sont des essais cliniques qu'il faut financer, donc des essais cliniques qui sont coûteux. Et finalement, ça n'intéresse pas beaucoup les industriels de faire des recherches sur des molécules qui sont déjà sur le marché et souvent même ne sont plus couvertes par des brevets. Et pourtant, il serait utile et essentiel, à mon avis, d'avoir des idées sur les vrais modes d'action de manière à pouvoir peaufiner un peu les indications de ces produits. Et donc ça, c'est courbe que je montre à peu près chaque année, parce que je crois qu'elle est tellement importante et sortie d'un manuel, d'un textbook de pharmacologie. Et donc elle représente finalement la courbe dose-réponse de l'efficacité thérapeutique. Donc ça, c'est l'efficacité sur la tumeur, dans le cas d'un anticancéreux, et ça, c'est la toxicité sur les cellules normales. Et vous voyez que dans le meilleur des mondes possibles, eh bien, l'efficacité est de 100% sur la tumeur avant qu'on arrive à une toxicité sur les cellules normales. Et donc, cette différence entre les deux courbes, c'est ce qu'on appelle l'index thérapeutique. Alors ça, ce serait dans le meilleur des mondes possibles, parce qu'on sait très bien qu'en pratique, c'est très rarement comme ça. Et en pratique, malheureusement, la toxicité sur les cellules normales est plus souvent ici. Et donc, on va avoir une efficacité thérapeutique au prix d'une toxicité significative. Alors, qu'est-ce qui explique au niveau biologique cet index thérapeutique? Pendant longtemps, on a pensé que c'était la vitesse de division de l'ADN. Sauf que ça ne colle pas très bien et qu'en l'occurrence, il y a beaucoup de tumeurs sur lesquelles la chimiothérapie est efficace, mais qui se divisent beaucoup plus doucement, beaucoup plus lentement que des cellules normales. Et il semblerait que la rapidité de division soit au contraire un excellent indicateur de la toxicité. Et donc, ce sont les cellules en division rapide qui vont être les plus souvent touchées, les cellules normales en division rapide qui vont être le plus souvent touchées par ces manifestations toxiques. Encore une fois, ce qui soulève la question sur cette pratique empirique de quelles sont les bases moléculaires de la spécificité entre les types d'associations et les types de tumeurs. Donc ça, ce sont des figures sorties de la revue que j'ai écrite avec Tony Letaille. Donc il y a quand même quelques situations où on comprend. Alors, par exemple, il y a un gène dont on parle presque dans chaque cours en cancérologie, hein, qui est P53. Et donc, on a pu, dans certaines circonstances, montrer qu'il y a un lien profond entre le statut P53, la présence de mutation ou pas, et puis la réponse thérapeutique. Et de manière intéressante, cette relation, elle peut être dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a certaines tumeurs pour lesquelles la mutation de P53 va être une signature de l'inefficacité thérapeutique. C'est le cas, par exemple, dans les leucémies aiguës myéloïdes, où c'est extrêmement clair. Et puis, il y a à l'inverse des situations où, au contraire, il faut avoir une mutation P53 pour que la chimiothérapie puisse exercer son plein effet. Et ça a été décrit, par exemple, dans certaines formes de tumeurs du sein, où on sait que lorsque P53 est intact, eh bien, la chimiothérapie va activer P53, induire un arrêt de cycle, et cet arrêt de cycle va permettre la réparation de l'ADN et la rechute, alors que lorsque P53 est mutant, eh bien, on n'aura pas d'arrêt du cycle cellulaire, on va progresser vers des mitoses avec des chromosomes anormaux qui va conduire à la catastrophe mitotique qui va précipiter la mort. Et puis il y a des situations où, on verra un exemple tout à l'heure, où par exemple avec des défauts de réparation, de système de réparation de l'ADN, comme par exemple BRCA1 ou BRCA2, eh bien on sait qu'en réponse aux cisplatines par exemple, eh bien la présence d'une mutation de BRCA1 va être un facteur favorisant la sensibilité. Et qu'au moment de la rechute, eh bien, on va récupérer en fait la fonction de BRCA1 ou BRCA2, c'est-à-dire que c'est cette correction de ce défaut qui s'accompagne de la rechute. Donc, des situations multiples et pas univoques dont on a déjà parlé rapidement. Donc là, une diapo que j'ai montrée dans un cours précédent aussi, qui montre le panorama des gènes de susceptibilité au cancer du sein et de l'ovaire, BRCA1, BRCA2, qui sont des protéines impliquées dans la réparation de l'ADN, et donc chez des sujets prédisposés, donc qui ont une mutation d'un allèle, et qui sont donc BRCA1 plus moins, eh bien, au fil des années, le deuxième allèle va être perdu dans certaines cellules, essentiellement dans le sein ou dans l'ovaire, et on ne sait toujours pas pourquoi. Finalement, ce sont les tissus sensibles aux hormones qui sont à ce point sensibles à la carcinogénèse chez ces patients. Et ces cellules BRCA1 plus moins vont ensuite proliférer et donner naissance à ces tumeurs. Et donc, l'absence, cette fois-ci, de cette protéine de réparation va faire que ces tumeurs ne sont plus capables d'exercer une réparation de l'ADN normale par recombinaison homologue. Et donc, il y a d'autres voies de sauvetage qui sont activées, en particulier des voies par non-junction recombination. Et donc ça, c'est des travaux, vous voyez, qui ont été publiés il y a une quinzaine d'années et qui montraient de manière extrêmement claire que des patientes, c'est dans le cas de l'ovaire, des patientes qui présentent une inactivation de ce système de réparation, en fait, sont beaucoup plus sensibles aux cisplatines que les autres, traduisant donc une relation directe entre la capacité de réparer des défauts d'ADN, ou l'incapacité en l'occurrence à réparer l'ADN, et la réponse thérapeutique. Alors la même chose a été décrite avec les inhibiteurs de PARP assez rapidement. Là aussi, quand il y a des défauts de réparation de l'ADN par recombinaison homologue, eh bien on sait que des inhibiteurs de cette enzyme qui va initier la réparation de l'ADN vont être particulièrement sensibles, et ça a été bien démontré, donc là aussi de mémoire dans le cas de l'ovaire où le traitement par ce type d'inhibiteur de PARP a un effet clinique en entretien qui est tout à fait remarquable, et c'est devenu maintenant le traitement de référence. Alors, dans une revue très intéressante publiée par Jean-Christophe Marine, tout n'est pas génétique. Tout n'est pas génétique, et donc le modèle classique dans lequel on a un traitement par un inhibiteur ciblé qui va permettre la sélection clonale progressive des cellules qui ont eu une mutation qui va rendre insensible au traitement. Ça, c'est par exemple très bien documenté dans le cadre des inhibiteurs de kinase. On va avoir une sélection progressive de ces cellules mutées, où on peut induire la mutation, soit elle est préexistante, soit elle va être induite par le traitement, elle va conduire à une expansion de ces cellules mutées. Donc ça traduit le mécanisme, au fond, de résistance génétique. Ça, c'est très bien documenté, et c'est une des causes importantes de résistance. Et donc, ce que Jean-Christophe Marine décrit dans cet article de revue, c'est qu'en fait, il y a d'autres types de résistance. On peut avoir des résistances liées à de la variabilité transcriptionnelle, ou une variabilité épigénétique, donc pas des mutations génétiques, mais différence des profils de régulation de l'expression des gènes qui font que ces cellules qui ont des défauts ou des anomalies de régulation transcriptionnelle ou épigénétique vont être progressivement sélectionnées au moment de la résistance. Ou alors, ce qui a été aussi très étudié dans des modèles de MT en particulier, c'est qu'il peut y avoir une plasticité. Et cette plasticité fait qu'une cellule va changer complètement de répertoire transcriptionnel, changer complètement de répertoire épigénétique. Elle va, se dédifférencier. Et cette dédifférenciation va être à l'origine d'une adaptation au traitement et d'une forme de résistance. Donc les mécanismes sont, en d'autres termes, beaucoup plus complexes que de simples mécanismes génétiques avec mutations sur les sites de résistance. Alors on revient à le schéma que j'ai montré l'an dernier, montrant donc l'évolution du niveau de stress oxydant dans les tumeurs, avec cette montagne en escalier, finalement, cette montée en escalier entre les tissus normaux et les tissus et les cellules invasives, montrant que plus une cellule avance dans le processus de transformation, plus elle va être sensible au stress oxydant. Et donc vous vous souvenez qu'assez souvent, à ce niveau-là, il va y avoir des mécanismes d'adaptation qui vont apparaître, par exemple avec des mutations de NRF2 ou de KEAP1 qui vont permettre de faire diminuer ce niveau de ROS. Et qu'à l'inverse, cette différence fondamentale de stress oxydant entre les tissus normaux et les tissus transformés pourrait être l'une des explications de l'index thérapeutique, expliquant au fond que sur des tissus normaux, eh bien, on peut induire du stress oxydant et le tolérer, alors que sur des cellules déjà bien avancées dans la transformation, on peut atteindre un seuil critique. On va le voir dans un instant. Et donc, c'est un des thèmes importants de ce cours, c'est que pendant très longtemps, on a considéré, en tout cas quand moi j'étais à votre place sur les bancs de la faculté, on expliquait que les traitements par radiochimiothérapie agissaient en cassant l'ADN. Alors, c'est vrai qu'il casse l'ADN. Est-ce que ça, c'est la seule base de l'effet thérapeutique? Ça n'est pas certain aujourd'hui. La radiothérapie, voilà, et également, on le verra, certaines formes de chimiothérapie induisent aussi beaucoup de stress oxydant, de radicaux oxygénés, qui pourraient jouer un rôle dans la réponse thérapeutique. Et beaucoup de chimiothérapie, on verra aujourd'hui le cisplatine et puis la semaine prochaine les anthracyclines, induisent aussi des stress oxydants aigus. Et ces stress oxydants aigus pourraient contribuer à l'induction de la ferroptose, dont on a parlé dans le cours dernier, ou de la sénescence, qui sont très dépendants des radicaux oxygénés. Et ça encore, c'est une figure tirée de la revue que j'ai écrite avec Tony Letaille, qui montre finalement, dans ce cas-là, une des bases de l'index thérapeutique pourrait être celle-ci, au fond. Si on considère le stress oxydant, et on peut tenir le même raisonnement pour le stress réplicatif dont on a parlé dans le cours de l'an dernier, on a une différence basale entre les cellules normales et les cellules tumorales. Et donc, si on a une thérapeutique qui peut être la radiothérapie ou la chimiothérapie qui induit donc une augmentation massive de ce stress oxydant, on va voir que dans les cellules normales, elle sera tolérée parce qu'elle n'arrive pas au seuil critique, alors que dans les cellules tumorales, on va atteindre ce seuil critique qui conduit à la mort des cellules et donc à la guérison du patient. Donc, commençons à parler maintenant des alkylants. Alors, les alkylants, c'est un groupe de molécules chimiques très simples. Et la découverte de la chimiothérapie, le début des alkylants, en fait, a commencé avec l'observation, pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'une toxicité aiguë d'un dérivé du gaz moutarde et la démonstration que cette toxicité, en fait, était une toxicité hématologique, c'est-à-dire que ces alkylants étaient capables de détruire la moelle osseuse et que les malheureuses personnes qui avaient été exposées à ces doses extrêmement fortes de gaz moutarde étaient mortes d'aplasie médulaire, en fait. Et assez rapidement après, ça a donné l'idée à des médecins de Harvard de se dire au fond que ce qui était arrivé dans le cas d'un accident militaire, on pouvait imaginer essayer de le contrôler et d'en faire une thérapeutique pour ces maladies diffuses, donc dans lesquelles la tumeur était partout. Et donc ça a permis d'induire une rémission au moins transitoire chez un patient qui était porteur de lymphome, ça dans les années 45-48. Ces molécules sont toutes des électrophiles, et donc ça, vous vous rappelez dans le cours précédent que ces électrophiles, c'est précisément ce qui est contrôlé par les systèmes de contrôle du stress oxydant. Et ces études de pionniers donc, ont débouché sur toute une série de molécules qui sont encore très largement utilisées avec succès aujourd'hui pour traiter un certain nombre de cancers. Se pose donc la question de savoir quelles sont les cibles moléculaires, et pendant très longtemps, on a surtout mis l'accent sur les lésions induites sur l'ADN, avec cette image assez classique hein, qui montre que ces alkylants sont capables, par des suites de réactions chimiques, d'induire un pontage hein, entre deux résidus de guanine sur la chaîne d'ADN et donc de souder les deux morceaux de la chaîne d'ADN, ce qui évidemment empêche toute réplication ultérieure. Donc ça, c'était le modèle assez classique en disant que ces adduits vont induire des modifications covalentes entre les deux chaînes d'ADN qui font que soit on bloque la réplication, soit on ne bloque pas la réplication, mais on casse l'ADN. Et effectivement, il a été montré, et on en a parlé dans le cours d'il y a deux ans, que pour certains alkylants, la réponse clinique est bien meilleure quand on a des défauts de réparation de l'ADN, et ça, c'est assez bien documenté. Ceci dit, ces produits sont également capables d'agir sur de l'ADN post-réplicatif, et donc il peut y avoir en particulier des effets à long terme sur les cellules souches. Et on connaît dans cet ADN post-réplicatif des zones qui sont de réparation extrêmement difficiles. Donc il y a des zones, comme par exemple les zones à proximité des télomères, qu'on n'est pas capable, que la cellule n'est en général pas capable de réparer de manière satisfaisante. Et ça pourrait expliquer cette toxicité germinale, cette toxicité sur les cellules souches. Mais il y a d'autres compartiments également sur lesquels on n'a pas énormément travaillé ou réfléchi. Par exemple, l'ADN de la mitochondrie peut être aussi ciblé. Et on sait que la réparation de l'ADN mitochondrial était aussi beaucoup plus difficile que celle de l'ADN nucléaire. Et on va voir qu'il existe des relations complexes, et qui n'ont pas encore complètement élucidé, entre les alkylants et l'induction de stress oxydant. Et par exemple, on verra quelques diapos à la fin de ce cours, la toxicité rénale aiguë aux cisplatines est liée à des anomalies mitochondriales et au stress oxydant, et pas du tout à des anomalies sur l'ADN. Donc, vous rappelez de ce schéma donc, décrivant les trois phases hein, d'élimination des électrophiles ou des xénobiotiques, hein, avec une première phase d'oxydation, une deuxième phase ensuite de conjugaison au glutathion et une troisième phase d'exclusion de ces molécules, donc, qui est un mécanisme extrêmement général, qui contrôle la réponse à toute une série de toxiques, et en particulier des toxiques qui induisent du stress oxydant. Vous vous rappelez que tout ce système est sous la dépendance de ce facteur de transcription NRF2, et vous rappelez que les mutations de NRF2, par exemple, qu'on observe dans des tumeurs, et bien si on les insère dans le génome des mouches, ces mouches deviennent résistantes aux insecticides, montrant que le mode d'action des insecticides, comme d'ailleurs d'un certain nombre de produits qui bloquent la croissance des plantes, répondent à ces mécanismes. Donc, le glutathion participe à la détoxification d'un certain nombre d'agents électrophiles, et je vous ai dit que les alkylants étaient des électrophiles, et donc les alkylants vont être détoxifiés, au fond, par ce système. Ce qui veut dire que quand ce système est massivement induit, par exemple, avec des mutations activatrices de NRF1, eh bien, on va avoir une exclusion, une diminution de l'expression, de la concentration, pardon, de ces électrophiles alkylants à l'intérieur des cellules. Alors, il y a des choses qui ne sont pas encore très bien comprises, mais c'est que des études qui ont été faites chez les plantes ont montré qu'il existait des effets mémoire de l'activation de ce système de protection contre les électrophiles. Et donc, que quand on a fortement activé ce système-là, eh bien, la cellule va garder une mémoire probablement épigénétique, du fait qu'elle a été soumise à ce stress oxydant, et donc elle va réagir beaucoup plus fort la deuxième fois. Et ça, c'est très bien étudié chez les plantes, et on sait par exemple une plante qui a été soumise à une sécheresse, elle va réagir contre la sécheresse, le manque d'eau par l'activation de ce système, et qu'ensuite elle sera plus résistante à une deuxième sécheresse. Et donc ça, si on fait un parallèle avec la radiothérapie ou chimiothérapie, bien, ça pourrait expliquer qu'après qu'une tumeur ait été soumise à certains types d'agents, eh bien, secondairement, même plusieurs années après, elle va être résistante à ce même type d'agent, au fond, parce que ce système de protection du stress oxydant aura été induit et la cellule gardera la mémoire épigénétique qu'elle a été stressée et elle va répondre beaucoup plus vite, ce qui veut dire que la thérapeutique sera moins efficace. Donc, juste une diapo pour vous rappeler que cette synthèse du glutathion, elle est réalisée par ces deux enzymes qui sont limitantes. Elle demande la capture de cystine puis de cystéine. Elle est régulée par NRF2. Et je vous avais dit que dans certaines tumeurs, le glutathion peut être limitant, et que par ailleurs, la synthèse du glutathion peut être contrôlée soit par l'activation de gènes maîtres, comme P53, c'est probablement un des mécanismes de sensibilisation à la ferroptose dont on a parlé dans le cours précédent, et puis elle peut également être bloquée, l'internalisation de la cystéine peut être bloquée par certains médicaments comme des sulfamides, et actuellement il y a des essais où on essaye au fond par la co-administration de sulfasalazine, ça a été fait en particulier dans des leucémies, de diminuer la concentration intracellulaire de cystéine de manière à avoir moins de glutathion et avoir une plus grande sensibilité aux alkylants. Mais il y a également d'autres agents qui sont des poisons, pas très utilisables en clinique, hein, avec un composé qu'on appelle la BSO, par exemple, qui permet l'inhibition de cette enzyme, et donc qui va diminuer fortement la quantité de glutathion disponible à l'intérieur de la cellule. Et on va voir que la co-administration de BSO va en fait beaucoup augmenter l'effet des alkylants. Et ceci vous est représenté ici, hein, sur plusieurs types de lignées différentes, où la BSO par elle-même n'a pas d'effet. Des alkylants vont avoir un effet, mais un effet transitoire. Et vous voyez que si on conjugue les deux, donc on diminue la synthèse de glutathion, et bien on va avoir une rechute qui est très retardée. Et ça se voit très bien sur les courbes de survie. Vous voyez que les survies en présence du traitement alkylant et de BSO et bien sont toujours bien meilleures qu'avec l'un des deux, démontrant donc que dans ce modèle-là, le glutathion participe à la neutralisation. Alors, soit une neutralisation chimique, hein, soit un export carrément des molécules d'alkylant et donc diminue son effet thérapeutique. Donc ça, c'est la preuve de concept, au fond, que la modulation in vivo de la quantité de glutathion disponible dans une cellule est une intervention qui a un impact thérapeutique possible. Et donc dans cet exemple, c'est toujours les mêmes travaux, on voit qu'on a une induction de mort, vous voyez, qui est très supérieure avec la combinaison des deux traitements. Et ceci est effectivement le reflet d'une forte diminution du glutathion intracellulaire in vivo. Donc parce qu'on a épuisé le glutathion, on a sensibilisé fortement à l'action de ces alkylants. Donc, en conclusion, pour cette partie, hein, chimiquement, beaucoup d'alkylants sont des électrophiles. Donc, ils vont être neutralisés et ou exportés sous l'effet du glutathion. Et d'ailleurs, en médecine, certaines toxicités aiguës de ces alkylants, comme par exemple la toxicité sur la muqueuse vésicale, parce que certains de ces produits sont éliminés par le rein, eh bien, ils sont traités par des dérivés du glutathion. Et donc, on va injecter en fait du glutathion pour protéger la vessie. Donc, ça pose la question, évidemment, des liens qui peuvent exister entre la chimiosensibilité intrinsèque d'une tumeur et le niveau initial de glutathion dans celle-ci. Et on revient, bien sûr, puisque vous vous rappelez que NRF2, le facteur de transcription qui contrôle cette synthèse de glutathion dans la vraie vie, quels sont les rapports, au fond, entre le statut de NRF2, en particulier le statut muté ou pas muté, et la réponse thérapeutique qui peuvent être observées. Et donc ça, on va voir un certain nombre d'exemples dans le cas du cisplatine, où ça a été très étudié, et pour lesquels les relations sont assez claires. Donc le cisplatine, c'est un alkylant, vous voyez, avec un atome de platine qui est maintenu au sein d'autres résidus chimiques. Et cet atome de platine, on sait qu'il est capable de se lier à beaucoup de choses. Il peut se lier à certaines bases sous forme d'un adduit simple. Il peut, comme tout à l'heure pour les dérivés du gaz moutarde, il peut se lier à deux brins d'ADN différents et donc créer cette liaison qui est la plus dangereuse, celle qui va souder les deux brins d'ADN ensemble. Il peut se lier sur deux bases mais sur le même brin d'ADN avec donc une rupture intrachaîne. Et puis il peut également lier l'ADN à des protéines, et on sait que ces adduits covalents entre l'ADN et les protéines sont des dégâts qui sont particulièrement toxiques, enfin, des obstacles qui sont particulièrement toxiques pour les cellules. Et se pose donc au sein de toutes ces possibilités de savoir au fond quelle est la cible qui est vraiment importante pour la cellule, et la réponse en fait c'est qu'on ne sait pas très bien. D'autant plus que quand on commence à faire un peu de biochimie, on s'aperçoit que seuls 10% des atomes de platine sont liés à des acides nucléiques, 90% sont liés à des protéines. Et donc, ça pose la question de savoir, au fond, quels sont les véritables interactants, quels sont les interactants qui sont importants pour la réponse thérapeutique. Est-ce que c'est l'ADN du noyau? Est-ce que c'est l'ADN mitochondrial? Est-ce qu'il va y avoir des effets redox secondaires? Et est-ce que ça peut être même des enzymes régulant le métabolisme redox, hein, puisque vous rappelez que toutes ces enzymes impliquées dans le métabolisme redox, elles sont caractérisées par des atomes de soufre ou des atomes de fer, et qui peuvent être ciblées de manière très efficace par ces alkylants. Alors juste un exemple dans une publication récente qui montre donc ça sont des travaux sur une lignée cellulaire traitée par du cisplatine. Et vous voyez que dans cette situation-là, on a une induction de sénescence, donc de vieillissement cellulaire accéléré, qui est manifestée ici par cette couleur bleue. Donc ce n'est pas de la mort dans ce cas-là, c'est de la sénescence. Et cette sénescence, elle est essentiellement bloquée par un précurseur du glutathion, la N-acétylcystéine, qui va bloquer très largement cet effet pro-sénescent du cisplatine. Et de manière remarquable, en fait, cette diminution de l'effet, elle n'est pas liée à une diminution de la fixation du platine sur l'ADN ou dans la cellule, ce qui veut dire que ce n'est pas un problème d'export, c'est pas un problème de neutralisation du médicament, c'est pas un problème d'export du médicament, mais c'est qu'en fait, on s'attaque directement au mode d'action, en fait, en contrôlant les radicaux oxygénés. Et donc ça m'amène à vous rappeler cette figure du premier cours, hein, dans lequel ce facteur de transcription, NRF2, il a ce rôle de détoxification, un contrôle direct de la production de glutathion, de thioperoxydase, de production du NADPH, de contrôle du métabolisme de fer et du contrôle également de la conjugaison du glutathion à un certain nombre de molécules, tout ceci pouvant être impliqué dans la réponse à ces médicaments. Alors, il y a une vingtaine d'années, des scientifiques ont voulu faire une expérience intéressante, qui a été en fait assez fondatrice, dans laquelle ils ont créé un rapporteur transcriptionnel de l'activité d'NRF2. Donc ça, c'est une construction synthétique, en fait, dans laquelle on va pouvoir mesurer directement l'activation du gène NRF2 par l'intermédiaire d'éléments de réponse aux antioxydants. C'est un mécanisme qui est très sensible. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est que le traitement par des alkylants, comme le cisplatine, eh bien, était capable d'induire directement l'activité NRF2, montrant donc qu'en plus des liaisons à l'ADN, des modifications sur l'ADN, on allait avoir une induction propre du stress oxydant. Et la meilleure preuve que ceci était important, c'est que si on conjugue l'action de ces alkylants avec l'inhibiteur de synthèse du glutathion, vous voyez qu'à ce moment-là, eh bien, l'activation de ce gène monte en flèche, traduisant bien donc le fait que la neutralisation du stress oxydant par le glutathion est importante dans l'activation de ce gène. Et par contre, si on rajoute du N-acétylcystéine qui va être le précurseur du glutathion, eh bien, vous voyez que l'activation s'effondre. Donc on a bien un rapporteur qui présente toutes les caractéristiques que l'on souhaite et qui montrent que toutes ces molécules qui sont des alkylants utilisés en clinique bien sont capables d'induire ce stress oxydant. Ceci veut donc démontre bien que les alkylants vont induire cette activation de la voie NRF2. Et ceci évidemment est important puisqu'il existe des liens extrêmement forts entre l'activation basale de la voie NRF2 par des mutations qu'on peut montrer au diagnostic. Une mutation, encore une fois, vous en souvenez, soit de KEAP1, soit de NRF2. Et ça, c'est très fortement lié à la résistance, à la chimiothérapie, à la radiothérapie, à l'immunothérapie. Et puis on verra un peu plus tard dans le cours qu'en plus, on a pu documenter très récemment, ce sont des travaux publiés cette année, une activation forte de la voie NRF2 au moment de la rechute. C'est-à-dire que si on compare l'abondance de la protéine NRF2 avant le traitement et après traitement, on voit qu'elle augmente fortement après le traitement et que ça, c'est lié à la sensibilité thérapeutique. Et puis, il y a des voies maîtresses de l'oncogénèse, comme par exemple la voie RAS, qui va activer directement la synthèse de NRF2. Et ceci posait donc la question de savoir si on pouvait avoir une pharmacologie de cette voie NRF2. Est-ce qu'on peut concevoir des inhibiteurs de NRF2 qui pourraient sensibiliser à l'action thérapeutique? On verra que pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de médicaments qui soient utilisables. On a trouvé des inhibiteurs, mais en fait, ils sont extrêmement toxiques et pas utilisables en clinique. Alors, ces liens cliniques entre réponse aux alkylants, principalement réponse aux cisplatines et la voie NRF2, elles ont été beaucoup étudiées dans les cancers ORL, œsophage ou poumon, pour lesquels ces mutations sont relativement fréquentes. C'est jusqu'à 25% des tumeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que certains de ces gènes cibles de NRF2, comme NQO1 ou GSPT1, ont des polymorphismes qui sont associés au développement des cancers. Et ça, ça a été décrit en particulier au Japon, où ces polymorphismes sont fréquents. Et donc, ça suggère qu'il y a une activation de cette voie qui contribue pas seulement à la sensibilité thérapeutique, hein, mais également au développement de ces tumeurs. Ces mutations sont fortement associées à la résistance à la radiothérapie, on le verra dans le dernier cours. Elles sont plutôt tardives, ce ne sont pas des mutations qui vont initier la maladie, ce sont des mutations de progression, puisque finalement elles surviennent au moment où la tumeur commence à s'empoisonner avec ses propres ROS, et elles sont très liées par contre au pouvoir métastatique. Et des travaux qu'on ne décrira pas montrent qu'elles sont... Ces mutations au diagnostic sont fortement liées à la résistance d'emblée aux cisplatines à travers une résistance de la ferroptose, donc ce mécanisme de mort qu'on a vu dans le cours précédent. Alors des travaux récents, là aussi, qui ont été publiés cette année, ont pu montrer qu'en fait, dans des lignées, on ne sait pas encore si c'est le cas chez les patients, mais il peut y avoir des mutations de résistance aux cisplatines qui sont directement liés à l'exposition aux cisplatines et qui touchent essentiellement KEAP1, ce qui crée un modèle en fait qui ressemble exactement à ce qu'on connaît bien pour les traitements ciblés, dans lesquels on a une sensibilité initiale, on applique un traitement ciblé, on va muter la cible et après avoir muté la cible, bien sûr, on a une résistance. Et bien, dans le cas du couple finalement KEAP1 NRF2 et cisplatine, on peut avoir la même chose, au moins dans des lignées. On sait pas encore si c'est vrai chez les patients. Et donc ça, c'est juste certaines des données de ce papier, hein, qui montrent qu'au fond, en cultivant ces cellules avec du cisplatine, on peut obtenir des mutants résistants et que ces mutants résistants qui vous sont représentés ici, ils vont avoir d'abord des grosses différences d'expression basale de ROS, des modifications d'expression de NQO1 et que dans au moins la moitié des cas, on va avoir sélectionné des mutations de KEAP1. Dernière figure de ce papier, encore une fois publié très, très récemment, qui montre de mémoire dans des cancers ORL que l'expression en protéines de NRF2, que vous pouvez voir ici, en fait, a un rôle pronostique important sur la survie post-traitement par le cisplatine, montrant que des patients pour lesquels le niveau de la protéine est élevé, ce qui suggère que ce sont des patients chez qui on a des mutations de KEAP1, et bien ils vont avoir un pronostic qui est beaucoup moins favorable que ceux pour lesquels l'expression de la protéine est faible. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le niveau d'expression de la protéine va souvent augmenter de manière forte au moment de la rechute, suggérant donc que l'augmentation de cette protéine participe au mécanisme de rechute. Alors, indépendamment des effets propres sur la tumeur, il y a également des effets qui ont été décrits sur le micro-environnement. Et en particulier, il a été montré qu'un des mécanismes probablement ancestraux qui ont concouru au développement de cette voie NRF2, c'est qu'en fait, NRF2 serait, entre autres, un mécanisme de rétrocontrôle sur l'inflammation, par exemple sur l'inflammation induite par l'activation de NOX2. Vous rappelez, NOX2, c'est cette enzyme qui va utiliser du NADPH pour fabriquer des radicaux oxygénés pour tuer les bactéries. Alors ça, c'est très bien de tuer les bactéries, mais quand on produit trop de radicaux oxygénés, la cellule elle-même va souffrir. Et donc, dans ce cas-là, il est clair que l'activation de la voie NRF2 est un mécanisme de protection, c'est un mécanisme, au fond, de désactivation de ces radicaux oxygénés pour protéger la cellule une fois que celle-là aura pu tuer ces bactéries. Et effectivement, des études menées sur la souris KO NRF2 ont montré que celles-ci sont beaucoup plus sensibles à des troubles auto-immunitaires parce qu'elles ne sont pas capables ou elles sont moins capables d'éliminer cette inflammation qui est, encore une fois, la conséquence du stress oxydant, et en particulier, dans ces cas-là, dans les NRF2KO, on va avoir une hyperactivation de voies d'inflammation comme NF-kappa-B ou comme STING qui va contrôler la voie interféron. Et donc ces voies d'inflammation vont être fortement activées. Et ceci démontre évidemment génétiquement que NRF2 participe à l'extinction de ces mécanismes d'inflammation. Et donc, dans le contexte des tumeurs, et c'est évidemment un reflet de ce qu'on vient de dire plus haut, eh bien, l'activation constitutive de NRF2 par des mutations de KEAP1 ou de NRF2 va conduire à un échappement au système immunitaire. Et cet échappement du système immunitaire, il est en fait le résultat d'un certain nombre de composantes. Il y a moins de lymphocytes CD8, il y a moins d'interférons gamma. C'est ce qu'on appelle en immunologie des tumeurs froides. C'est-à-dire que la tumeur, en fait, est capable, par l'intermédiaire donc, de cette activation de NRF2, de désactiver le système immunitaire qui est autour d'elle. Et donc la conséquence, bien entendu, c'est une moins bonne réponse aux immunothérapies qui nécessitent évidemment que les cellules immunitaires soient présentes et soient activables. Donc ça, c'est représenté dans cette revue récente, là encore publiée cette année, hein, montrant que pour des tumeurs pour lesquelles la signalisation NRF2 est activée, du fait, par exemple, d'une mutation, eh bien, on va avoir des conséquences intratumorales, comme l'augmentation du glutathion, reprogrammation métabolique, diminution de l'activation de NF-kappa-B, on en a parlé à l'instant, diminution de l'activation de STING. Donc, les voies de l'inflammation vont être essentiellement coupées. Ça va permettre la prolifération rapide de ces cellules et tout le micro-environnement tumoral va être désactivé. Désactivé parce que les voies de l'inflammation comme l'IL1 et l'IL6 sont fortement diminuées, désactivé parce que les neutrophiles et les macrophages vont passer plutôt sous leur configuration immunosuppressive, et idem pour les lymphocytes T qui vont être moins actifs du fait de l'absence d'interféron gamma. Alors ça a pu être documenté dans un papier qui est publié récemment dans Nature, montrant l'effet d'inhibiteurs de RAS. Alors, depuis quelques années, des inhibiteurs de RAS, au moins de certaines formes de RAS, ont été mis au point, et essentiellement des formes mutées de RAS pour lesquelles la mutation est une cystéine. Et ça, c'est très important, parce que cette mutation étant une cystéine, la forme mutée va être ciblée par des électrophiles, et donc ces électrophiles vont être capables de bloquer la forme activée constitutivement de RAS. Et vous rappelez que je vous ai dit que le RAS activé va induire l'expression de NRF2 et donc inhiber le micro-environnement. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les tumeurs présentant une mutation de RAS sont particulièrement difficiles à traiter. Donc, il existe depuis quelques années des inhibiteurs spécifiques ciblant la cystéine, donc ayant des caractéristiques d'électrophiles qui se fixent sur cette cystéine néoformée. Et donc, ceci va désactiver toute la signalisation d'aval, arrêter la croissance, et dans la signalisation d'aval, évidemment, ça va bloquer, entre autres, l'activation constitutive de NRF2. Et ceci, et ça a été démontré dans ce papier de Nature, ça va conduire à une restauration de la réponse immune qui, sans entrer dans les détails, se manifeste par une réinvasion de la tumeur par des cellules immunitaires activées. Et cette restauration de l'infiltrat immunitaire va s'accompagner d'une meilleure réponse aux immunothérapies. Donc un mécanisme très élégant dans lequel, au fond, l'intervention sur une seule protéine, sur la cystéine en fait de ce RAS muté, va permettre une restauration du stroma immunitaire qui va permettre de restaurer la réponse aux immunothérapies. Alors, ce qui est assez remarquable, et j'ai un peu insisté déjà dessus, c'est que ces inhibiteurs de RAS muté, ce sont des électrophiles. Ce sont des électrophiles, et donc en fait, ils vont également avoir une action propre sur le stroma normal en diminuant l'activation de NRF2 dans le stroma normal, puisqu'ils vont avoir au fond un double rôle, à la fois d'interaction avec le RAS muté, mais aussi de jouer sur l'activité de NRF2 dans le stroma. Et donc, il y a un double effet, en fait, dans ce micro-environnement, à la fois désactivation de la voie RAS et un effet propre, bénéfique, sur les cellules du stroma qui va permettre, là encore, que celles-ci soient plus sensibles aux inhibiteurs à l'immunothérapie et à la réactivation du contrôle du stroma, de la tumeur par le stroma. Alors, vous allez me dire, vous avez expliqué que c'est un facteur de transcription extrêmement important, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, vous savez qu'en général, on dit, et c'est pas toujours vrai, que les facteurs de transcription sont des protéines qui sont pas faciles à cibler. C'est vrai, mais on sait le faire quand même, dans certaines circonstances, entre autres maintenant, avec des techniques de dégradation induite. Et beaucoup d'efforts, beaucoup de travaux ont porté sur le ciblage de NRF2. Et à travers quelques exemples, vous allez voir qu'on a maintenant un certain nombre d'inhibiteurs. Le problème, il y a deux problèmes. D'une part, ils ne sont pas très faciles à utiliser in vivo. Et d'autre part, ils ont beaucoup d'effets également sur les cellules normales. Et ces effets sur les cellules normales vont pas mal gêner leurs utilisations. Alors, un premier inhibiteur, vous voyez, est apparu il y a une dizaine d'années. Et on voit qu'il a un effet. Ça a été validé dans des tumeurs avec mutation de KEAP1, donc NRF2 basal, hyperactivé de manière basale. Et donc cet inhibiteur se lie directement à NRF2 et il va déstabiliser la protéine et donc diminuer l'expression des gènes STIM. Donc il fait ce qu'il faut faire, il diminue l'activité des gènes cibles, hein. NQO1 c'est une des cibles classiques de NRF2, vous voyez ça baisse de moitié, ça baisse pas non plus de 100%, hein, mais ça baisse de moitié, on diminue le glutathion, on diminue la capacité antioxydante, donc ça c'est tout ce qui est attendu, ça ralentit un peu le nombre des colonies en fonction de la dose, donc il y a un effet antitumoral, idem sur la croissance en boîte de pétri, mais vous voyez que c'est pas non plus noir et blanc, hein. c'est un effet relatif, et les effets synergiques en fait ils sont surtout vus en conjonction avec d'autres agents comme avec par exemple du cisplatine. Et quand on essaye in vivo, là aussi c'est essentiellement avec des dérivés de platine, on va avoir un effet synergique. Mais vous voyez qu'on bloque la croissance tumorale, on ne détruit pas la tumeur, on l'empêche simplement de pousser, mais c'est déjà pas mal. Et si on regarde les marqueurs de prolifération, on va voir qu'effectivement, c'est l'expression de NRF2, on voit qu'on diminue fortement l'expression de NRF2. Donc, il y a eu beaucoup d'espoir hein, quand ce papier a été publié, ça a été un citation classique, mais en fait, c'est très toxique, c'est pas très facile à utiliser in vivo, et puis les cellules normales aussi ont besoin de NRF2. Donc il y a eu un deuxième papier qui est sorti là de manière beaucoup plus récente. Alors lui, qui n'a pas cherché à s'attaquer directement à NRF2, mais qui se disait qu'il était au fond plus intelligent de s'attaquer à l'enzyme KIP1 qui va dégrader NRF2. Et donc ces auteurs ont réussi à trouver, on ne sait pas très bien comment, une petite molécule qui se fixe spécifiquement sur les mutants. Donc c'est une petite molécule qui probablement se fixe sur des régions de la protéine qui normalement ne sont pas exposées, inaccessibles dans la protéine normale, mais qui sont accessibles sur les mutants et qui vont au fond être capables de reconfigurer les protéines mutantes pour qu'elles retrouvent leur activité. Et effectivement, on va sensibiliser aux cisplatines, on va avoir les effets attendus sur l'activation des gènes cibles et les effets attendus également sur la croissance tumorale. Et ce que vous pouvez voir là, c'est que on a un effet antiprolifératif qui est dépendant de la présence de KIP1. Alors, de manière assez remarquable, et d'ailleurs, cet article n'explique pas vraiment comment ça se passe, mais il semblerait que ces composés soient actifs sur un assez grand nombre de mutations différentes. Donc, les auteurs ont testé 11 mutations, ils en ont testé 14, pardon, et sur ces 14, ces produits avaient un effet bénéfique sur 11 des mutations différentes qui étaient testées et propose en fait, sans être très bien capable d'expliquer comment, un effet reconformateur général sur ces protéines mutées pour restaurer au fond la fonction qui a été perdue par la mutation. Et ils disent eux-mêmes d'ailleurs que c'est un concept qui doit encore être affiné. Donc c'est un effet cytostatique sur des systèmes assez artificiels, et en fait là on attend d'avoir des informations cliniques pour savoir dans des systèmes un peu moins artificiels que les lignées qui ont été testées, qu'est-ce que ça peut donner. Donc on a toute une pharmacologie qui est complexe. Il n'y a pas encore aujourd'hui de médicaments qui ciblent NRF2 qui soient utilisés en clinique. Ce sont des pistes d'études très importantes, mais qui suggèrent en tous les cas que le stress oxydant et les radicaux oxygénés constituent un élément fondamental de la réponse. Alors, ça m'amène à vous parler de la toxicité de ces différents types de produits, et entre autres des liens avec les mitochondries. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas que l'ADN nucléaire qui soit ciblé par le cisplatine, il y a des protéines, mais il y a aussi l'ADN mitochondrial, et on sait que la charge négative des mitochondries attire fortement les molécules de cisplatine. On sait également que la réparation des adduits est beaucoup plus difficile dans les mitochondries que dans le noyau. Les systèmes sont beaucoup plus rudimentaires et ça suggère qu'il puisse y avoir un effet des adduits, des ADN mitochondriaux et des défauts mitochondriaux qui sont induits par le cisplatine vers à la réponse thérapeutique. Et en tous les cas, on sait qu'un certain nombre de toxicités sont très clairement liées à du stress oxydant et éventuellement à des modulations de la fonction mitochondriale. On peut aussi imaginer qu'au sein de la mitochondrie, où il y a pas mal d'atomes de soufre qui vont assurer entre autres le transport des électrons, eh bien, ces protéines à soufre soient ciblées directement par le cisplatine. Alors on connaît quelques exemples. Donc, là encore un papier publié assez récemment qui montre que si on s'intéresse à la toxicité rénale aiguë induite par le cisplatine, eh bien cette toxicité rénale aiguë, elle est liée en fait à une toxicité mitochondriale. Donc elle n'est pas liée aux effets du cisplatine sur la molécule d'ADN au sein du noyau, elle est liée à une toxicité mitochondriale. avec un effondrement de la production d'ATP, relargage de l'ADN mitochondrial dans le cytoplasme, et c'est le relargage de l'ADN mitochondrial dans le cytoplasme qui va être suivi de l'activation de la voie de détection des acides nucléiques cytoplasmiques, la voie Cegasting, qui conduit à une inflammation aiguë. Et effectivement, la meilleure preuve que l'effet toxique du cisplatine dans ce modèle-là n'est pas lié à une toxicité sur l'ADN nucléaire, eh bien c'est que l'inactivation de STING génétique chez la souris conduit à une protection de l'inflammation et une diminution de l'inflammation rénale aiguë liée au cisplatine, ce qui suggère donc qu'au moins pour le rein, la mitochondrie serait le primum movens de cette toxicité, encore une fois, au moins dans le cas de la souris. Et donc, des travaux, là aussi très récents, ont été encore plus loin, cette fois-ci pour examiner, étudier l'effet du gène NRF2 sur cette toxicité rénale aiguë, en comparant finalement de manière assez simple la toxicité rénale du cisplatine chez des souris sauvages ou des souris inactivées pour NRF2. Et ils peuvent démontrer l'existence d'une toxicité rénale, mitochondriale immédiate, avec une induction massive de ROS, une réponse NRF2, et l'inactivation génétique de NRF2 aggrave beaucoup ces lésions, montrant encore une fois que dans le cas de ces lésions rénales, c'est le stress oxydant et pas les dégâts sur l'ADN qui sont responsables de la toxicité. Et on n'insistera pas dans ce cours, mais sachez qu'il existe des données extrêmement similaires pour la toxicité auditive de ce type de molécule alkylante. Il y a une toxicité sur les cellules ciliées de l'oreille interne, et cette toxicité, là aussi, pour ces cellules qui ne se divisent pas, évidemment, fait appel à une toxicité aiguë par les radicaux oxygénés, et elle est modulée par l'absence ou pas de NRF2. Donc juste quelques données sans entrer dans les détails. Vous voyez que là c'est la production d'ATP vous voyez qu'on part d'un niveau identique, et un jour après l'exposition aux cisplatine, on a un effondrement de la production d'ATP en l'absence de protection par NRF2 avec des additions des accumulations lipidiques dans les tubes rénaux, des lésions inflammatoires, suggérant donc qu'une partie des effets redox serait liée à des troubles mitochondriaux et donc modulée par la présence ou l'absence de NRF2. Et donc la conclusion, au fond, c'est que au-delà des dommages à l'ADN, qui était la vision classique de l'effet de ces alkylants, on peut imaginer que la modulation du stress oxydant soit impliquée dans les effets thérapeutiques, pas seulement les effets toxiques, mais aussi les effets thérapeutiques du cisplatine. Alors pour conclure sur cette partie, j'espère vous avoir convaincu que la disponibilité du glutathion conditionne la réponse aux alkylants, au moins en partie par une neutralisation immédiate et l'export de ces alkylants en dehors de la cellule. Les alkylants ou certaines mutations oncogéniques comme RAS sont capables d'activer immédiatement la signalisation NRF2, et que le niveau de base de l'activation basale de NRF2 est très lié à la réponse à la résistance des novos ou acquise aux cisplatines. On verra dans le prochain cours que c'est aussi le cas pour la radiothérapie, et donc que NRF2 est une cible pharmacologique d'intérêt avec d'intenses recherches, mais de vraies questions à la fois sur la capacité d'avoir des bons inhibiteurs et aussi sur leur utilisation, avec le risque d'augmenter évidemment fortement la toxicité sur les cellules normales. Et enfin, la toxicité du cisplatine sur certains tissus normaux, comme on a vu le tubule rénal et le tissu auditif, implique la mitochondrie et du stress oxydant. Alors, pour terminer un peu plus rapidement que je ne l'avais prévu, mais au-delà des alkylants, au fond, là on a parlé extensivement des dérivés du gaz moutarde, du cisplatine, donc qui sont les molécules emblématiques des alkylants, Mais il y a d'autres anticancéreux. Et une autre classe qui a été extrêmement étudiée, ce sont les anthracyclines. Parce que les anthracyclines aussi induisent, entre autres, du stress oxydant. Donc les anthracyclines, c'est par exemple le cas de la donorubicine, la doxirubicine, toute une famille en fait d'antibiotiques anticancéreux qui ont des effets anticancéreux absolument majeurs et qui ont des modes d'action multiples, comme c'est souvent le cas pour des molécules naturelles. Un des modes d'action qui a été proposé, c'est une interférence directe avec la chaîne respiratoire en étant capable de transporter des électrons au niveau de la chaîne respiratoire en dehors des complexes de transport des électrons et donc de faire finalement un shuttle au sein de la mitochondrie qui produirait des ROS de manière aiguë. Il y a également une action sur les topoisomérases qui est bien connue avec la capacité de ces molécules à bloquer l'action des topoisomérases et on sait par exemple que la toxicité cardiaque de ces molécules est liée directement à l'expression de la topoisomérase, ça a été bien montré chez la souris. On a également des capacités d'avoir une action d'intercalation dans l'ADN. Cette intercalation va modifier la topologie de l'ADN, elle va modifier l'ancrage des nucléosomes, elle va modifier l'expression génétique. Donc au fond, vous voyez qu'il y a beaucoup de mécanismes qui ont été proposés et on ne sait pas très bien, au fond, d'une part, quels sont ces mécanismes qui existent dans la vraie vie et d'autre part, dans la vraie vie, j'entends, dans un organisme entier, et d'autre part, quels sont ces mécanismes qui vont participer à l'effet thérapeutique. Alors, on sait une chose quand même, c'est qu'il existe des inhibiteurs purs de topoisomérase, comme les toposides, par exemple, qui sont médicaments très largement utilisés en clinique. Et on sait que les effets anticancéreux des anthracyclines sont très supérieurs à ceux de l'étoposide. Et on sait même qu'il existe en clinique des activités synergiques entre des inhibiteurs purs de topoisomérase 2 et des anthracyclines, ce qui suggère évidemment que les anthracyclines n'agissent pas seulement en bloquant les topoisomérases, parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas de synergie. Alors voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà la molécule la plus classique, la doxorubicine, qui est capable de rentrer finalement dans le cœur, entre les plateaux de la molécule d'ADN, c'est ce qu'on appelle l'effet intercalant. Et cet effet intercalant, évidemment, va modifier la configuration spatiale de cette molécule, ce qui va permettre de faire bouger un certain nombre de nucléosomes, ce qui va être à l'origine également des modifications de l'expression génétique. Donc, une molécule très utilisée en clinique, un mode d'action qui est complexe, ce qui veut dire essentiellement qu'on ne le comprend pas très bien, et quand on lit même des revues très récentes sur les anthracyclines, on propose toutes sortes de mécanismes, ce qui permet de penser qu'au moins l'un des mécanismes proposés sera le bon, parmi lesquels l'inhibition des topoisomérases, les cassures de l'ADN, qui sont le résultat de l'inhibition de ces topoisomérases, la formation d'adduits directs, l'intercalation. Entre autres, cette intercalation conduit à la transcription d'un groupe de gènes qu'on appelle les gènes immédiateurs-lé, et puis des effets mitochondriaux, et puis une production absolument massive d'espèces oxygénées, de ROS, et donc une activation majeure de cette voie du stress oxydant. Alors, quelles sont les signalisations qui sont activées en aval? Eh bien, on va avoir bien sûr la réparation de l'ADN, l'apoptose, mais aussi des modifications transcriptionnelles, des modifications épigénétiques, du stress oxydant. Et aujourd'hui, on ne sait pas très bien quelles sont les molécules qui vont être à l'origine de de la réponse clinique. C'est encore des sujets qui sont extrêmement débattus. Alors, quand on regarde sur des lignées, mais je vous rappelle que des lignées, elles ont deux caractéristiques. D'abord, elles poussent très vite et ensuite, elles poussent dans de l'oxygène. Donc, on va modifier pas mal de choses. Et donc, quand on fait des cribles, des banques de shRNA, donc on va inactiver à l'aveugle un certain nombre de gènes et on va voir quels sont ceux qui bloquent la réponse aux anthracyclines, eh ben, on trouve ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire les topoisomérases P53 et les protéines qui vont contrôler l'activation de P53, ce qui veut dire que dans ce système-là, c'est la réparation de l'ADN qui est à l'origine de la mort. Mais, et c'est un des termes récurrents de ce cours, je crois qu'il est important de regarder les effets in vivo sur des cellules primaires plutôt que sur des lignées ex vivo, parce qu'on ne voit pas la même chose, on ne voit pas la même réalité. Et assez clairement, les dommages à l'ADN sont importants sur des lignées, c'est probablement pas moins le cas quand on regarde in vivo. Alors, quand on commence à regarder un peu plus in vivo, eh bien, on s'aperçoit donc qu'il y a ce phénomène qui n'est encore pas très bien connu de court-circuiter, parce que les molécules d'anthracycline ont la capacité de réagir avec des électrons, et donc elles sont capables, au niveau de la mitochondrie, de court-circuiter en particulier le complexe 1 et de créer un cycle futile qui va conduire à une production massive d'espèces dérivées de l'oxygène en désamorçant finalement le transport des électrons au sein du complexe 1. On sait qu'il y a une accumulation majeure de fer mitochondrial en réponse aux anthracyclines. Et donc, à la lumière du cours de la semaine dernière, vous comprendrez facilement qu'on va pouvoir induire de la ferroptose à point de départ mitochondrial si on enrichit les mitochondries en fer. On sait également qu'il y a un blocage de la mitophagie. Et puis, au fond, quand on regarde cette littérature, vous vous souvenez probablement que les années précédentes, on a expliqué que les anthracyclines sont un extraordinaire anticancéreux. Par contre, elles ont un inconvénient, c'est qu'elles vont progressivement abîmer et éventuellement détruire le cœur. Et donc, cette cardiotoxicité a été extrêmement étudiée. Et en fait, les mécanismes de destruction du cœur ont été beaucoup plus étudiés que les mécanismes de destruction de la tumeur. Et donc, quasiment 90% des papiers sur les anthracyclines vont essayer de comprendre l'effet cardiotoxique, de comprendre l'effet sur les cellules souches cardiaques, beaucoup plus que de comprendre l'effet sur le cancer. Et je vous disais que chez la souris, au moins, on sait que cette cardiotoxicité, elle est extrêmement liée à l'expression de la topo 2 bêta, ce qui veut dire que par extension, on s'est dit que l'action sur les topoisomérases était aussi importante sur l'effet antitumoral, mais ça n'a jamais été vraiment bien établi. Et donc, pour finir et servir d'introduction au cours suivant, et également pour traduire le fait que l'enseignement du collège doit être à la pointe de la science en train de se faire, ça, ce sont des choses sur lesquelles mon équipe est en train de travailler. Il y a un cousin germain de la doxorubicine qui s'appelle l'aclarubicine, vous voyez, qui a la même structure essentiellement avec ses cycles aliphatiques, mais une chaîne qui est un peu différente. Donc une molécule variante qui est aussi un antibiotique, qui est aussi dérivée des streptomycèses, et qui est un médicament assez largement utilisé pour des raisons historiques en Chine et au Japon. Donc c'est un médicament antileucémique fortement utilisé en Chine et au Japon. Et il se trouve que ce médicament, en fait, n'induit peu ou pas de dommages à l'ADN. Ce qui vous est représenté ici, ça c'est tiré d'un papier de PNAS assez récent, d'une équipe hollandaise, et qui montre que, contrairement à la doxorubicine ou à d'autres anthracyclines, vous voyez, qui vont être capables d'induire des dommages absolument massifs à l'ADN, eh bien la clarubicine n'en induit pas. Quand bien même, on a un effet majeur anticancéreux sur des essais cliniques avec pas mal de recul. Donc ça remet un peu en question, encore une fois, cette notion que cette classe d'antibiotiques anticancéreux, encore une fois très largement utilisée en clinique, agit exclusivement à travers le DNA damage. Ça suggère qu'il y a autre chose, et on verra dans le cours prochain que ce autre chose, c'est semble-t-il au moins en partie d'induire du stress oxydant, ce que par contre cette molécule fait de manière extrêmement efficace. Voilà, j'ai été un peu plus rapide que ce que j'avais prévu. On se retrouve la semaine prochaine justement pour reprendre l'ensemble des données tournant sur les travaux en cours autour de la clarubicine, et puis on parlera pour finir de quelques éléments de la réponse à la radiothérapie. Comment est-ce que la radiothérapie, là aussi, fait appel au stress oxydant en parallèle avec les dégâts à l'ADN. Voilà. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.